Comme je l'ai rappelé au début de cette messe, cet après-midi, donc, Alexandre Guyot sera ordonné diacre en vue d'être prêtre, normalement dans un an, ordonné prêtre dans un an. Et dans l'Église, vous avez sans doute entendu que ces jours-ci, il y a beaucoup d'ordinations partout en France, même si, partout dans le monde plutôt, et en France, il y en a aussi pas mal, même si c'est assez faible en fait. Le nombre d'ordinations annuelles, on est autour de 125, en comptant tout le monde, c'est-à-dire en comptant les religieux, etc. Au niveau des prêtres diocésains, c'est autour de 75. Donc, j'ai plus les chiffres précisément en tête, mais c'est très faible. C'est vraiment une invitation à prier pour les vocations, puisque le Seigneur nous y invite explicitement, vous savez que c'est une des intentions de prière que Jésus demande explicitement, et dit « Priez le Père d'envoyer des ouvriers à sa moisson ». Donc si nous ne le faisons pas, ne nous étonnons pas déjà que les vocations soient peu nombreuses, si nous ne prenons pas au sérieux cette invitation du Seigneur. Il me semble aussi qu'il y aurait un deuxième aspect qui favoriserait l'émergence de vocations particulières. Alors, je ne pense pas uniquement aux prêtres, je pense à toutes les vocations particulières, et il ne faut pas oublier non plus les vocations religieuses, vocations de consacrés qui sont si nécessaires à la vie de l'Église, qu'elles soient masculines ou féminines. Il y a une autre raison qui fait que les vocations sont plus difficiles à émerger, mis à part le fait que notre pays se déchristianise, qui est quand même la première raison sans aucun doute. Il y a une autre raison, c'est que c'est l'affaissement de notre ferveur. Je le dis pour moi aussi, ne vous inquiétez pas, je ne me mets pas du tout en dehors parce que j'ai tellement conscience de ma tiédeur, mais c'est important de réaliser cela. Une église qui donne peu de vocation, c'est simplement une église qui a peu de ferveur en fait. Les églises ferventes, naturellement, en leur cœur, en leur sein, dans le cœur des jeunes en particulier, eh bien, jaillit le désir de donner éventuellement sa vie radicalement. Alors, comment faire pour favoriser une véritable ferveur? Je vais simplement me baser sur les lectures de ce jour, parce qu'il y aurait sans doute d'autres choses à dire, simplement quelques aspects des lectures de ce jour. Ce que Jésus dit à des gens qui passent. Il y a quelqu'un qui veut le suivre, et il y en a d'autres qui l'interpellent. « Suis-moi », il dit. Jésus dit « Suis-moi » dans l'Évangile. Et donc, cette parole ne s'adresse pas, vous avez remarqué que ce n'est pas aux apôtres qu'elle s'adresse, déjà. Elle s'adresse à d'autres personnes, on ne sait pas qui. Donc, ce n'est pas automatiquement des vocations particulières, justement, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire des vocations avec prêtres, diacres, consacrés. C'est plus large. Alors en fait, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que nous, baptisés, et même avant le baptême, quelque part, Jésus nous appelle de cette manière-là, « Suis-moi ». Il nous y appelle et nous donne quelques consignes, en tout cas, l'Évangile d'aujourd'hui nous en donne. Il nous en donne par ailleurs, il nous donne quelques consignes très claires sur la manière dont il faut le suivre. Déjà, par rapport aux biens matériels, il nous dit clairement que quand on suit Jésus, quand on le suit, quand on vit en chrétien, encore une fois, ce n'est pas la vocation religieuse dont je parle. Vous savez qu'aussi, quand on est religieux, on fait des vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, mais vous savez que ce sont ce qu'on appelle des conseils évangéliques qui, en fait, s'appliquent à tout chrétien, de façon différente, selon les états de vie. Évidemment, la chasteté ne se vit pas de la même manière quand on est marié, quand on est célibataire, et quand on est célibataire consacré, mais ce sont des éléments de la vie évangélique qu'il nous faut intégrer, il nous faut comprendre, qu'il nous faut essayer de vivre. Voilà. Et là, il y a la fameuse pauvreté, justement. Et justement, Jésus nous dit clairement que un des éléments de ferveur, on va dire, dans la foi chrétienne, c'est notre rapport au bien matériel. Non pas qu'il faille être dans la misère. C'est vrai que certaines vocations, alors pour le coup justement, certaines vocations consacrées, comme on pense aux franciscains, on pense à certains ermites, vivent dans une radicalité volontaire choisie de pauvreté qui, pour nous, qui sommes un petit peu confortablement installés, considèrent que c'est de la misère. Mais il nous faut, il n'empêche que nous, chacun de nous, nous sommes invités à avoir une relation ajustée aux biens matériels. Et même si nous sommes riches, et l'Église n'a jamais condamné les riches, seulement, il leur demande d'avoir un lien juste avec leur argent et d'avoir un lien juste avec les biens matériels et de savoir s'en détacher, partager, ne pas s'attrister d'en perdre, etc., etc., etc. Et donc, de vivre ce rapport à l'argent de façon ajustée, alors que Jésus nous dit par ailleurs qu'on ne peut pas aimer Dieu et l'argent. En fait, si nous nous apercevons que nous sommes attachés à l'argent, nous pouvons nous dire que, je ne vais pas dire que nous n'aimons pas Dieu, mais nous ne l'aimons pas bien, c'est clair. Ça fait partie des combats spirituels qu'il nous faut mener. Voilà. Première chose, l'argent. Les biens matériels, disons. En fait, être chrétien, c'est mettre le matérialisme ambiant à sa place, c'est-à-dire à nos pieds. L'argent n'est qu'un petit serviteur, et il ne sera certainement pas un maître, et nous ne le voulons pas, et nous ferons tout pour cela. Quitte à faire des sacrifices. C'est le sens de nos vies chrétiennes parfois. Le deuxième aspect que nous dit l'Évangile, c'est le rapport à la mort. Le rapport à la fin de vie, on va dire, de façon plus large. Et c'est vrai que là, le Seigneur nous dit aussi, mets ton espoir dans le Seigneur. On peut dire. C'est-à-dire que notre vie, nous, la question de la mort, nous ne fuyons pas la mort, nous la regardons en face, nous osons la regarder en face, alors que tout le monde, dans notre société actuelle, tout le monde nous dit qu'il ne faut plus la regarder, puisque il y a moins de morts autour de nous qu'autrefois. Autrefois, il y avait tellement de mortalité infantile et tout ça, la mort était omniprésente dans la vie des gens. Et les gens, justement, comme disait, j'ai déjà dit une fois en homélie, l'autre, comme disait une sociologue allemande, eh bien, les gens vivaient plus longtemps au Moyen-Âge qu'aujourd'hui, alors qu'ils mouraient tous autour de 40 ans, simplement parce qu'ils intégraient la vie éternelle dans leur vie. Tandis que dans notre société, on fuit la mort, on en a peur, et finalement, comme si la mort était, même pour les chrétiens, était comme un couperet qui ferait qu'il n'y a plus rien derrière. Mais si, il y a une vie éternelle et nous devons apprendre à vivre avec elle, nous devons apprendre à même si c'est difficile, on sait bien, un deuil, vivre un deuil, c'est difficile, et il n'y a pas à avoir honte de pleurer, nos êtres, ceux qui nous sont chers, mais dans l'espérance. Dans l'espérance, dans la certitude, c'est-à-dire cette espérance chrétienne qui n'est pas « j'espère, j'en suis pas sûr », c'est « je suis sûr de la vie éternelle, je suis sûr de l'existence du ciel, je suis sûr que ma vie est qu'un tremplin pour la vie éternelle ». Donc, ce rapport à la mort. Et puis, enfin, Jésus montre ce rapport aussi à la famille, puisque le dernier exemple que Jésus montre dit bien qu'il faut préférer Jésus à tout. Et cela aussi, c'est quelque chose de difficile, c'est-à-dire c'est normal, notre famille, c'est important. Nous, on peut élargir aussi ceux qui nous sont chers plus largement, nos amis, ceux qui nous tiennent vraiment à cœur. Et pourtant, nous sommes invités à aimer Jésus plus que tout, au-delà de tout, plus que tout. Et donc à vraiment oser préférer Jésus à tout, en sachant bien que Jésus nous le dit par ailleurs, que tout sera redonné au centuple. En fait, quand je choisis Jésus plus que toutes mes amitiés humaines, même dans un couple, normalement, on doit aimer Jésus avant son conjoint, mais pas pour moins aimer son conjoint, pas pour moins aimer sa famille, pas pour moins aimer ses amis, mais pour mieux les aimer. Les aimer de façon ajustée, parce que Jésus, comme disait Benoît XVI, Jésus n'enlève rien, mais il donne tout. Quand on lui donne tout, il donne tout. On reçoit le centuple, et on recevra les moyens d'aimer mieux, d'aimer davantage. Même si notre égoïsme est très présent en nous, eh bien, on peut être capable de donner sa vie pour ceux qu'on aime, alors qu'on est profondément égoïste et qu'au bout de quelques années d'amitié ou de mariage, eh bien on peut commencer à se préférer soi-même à son conjoint. Voilà. Donc voilà, c'est ce chemin-là. Toujours est-il que ce chemin est radical et c'est ça la ferveur chrétienne. Hein, c'est vraiment oser mettre Jésus premier parce qu'on sait qu'on n'y perd pas. Mettant Jésus premier, on n'y perd pas. Et puis je voudrais terminer par l'évocation de la première lecture qu'on a faite, que vous avez entendue. Dans cette première lecture, il est clairement établi par saint Paul qu'il y a une lutte en nous, hein, qu'il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Hein, c'est ce qu'on appelle communément le combat spirituel. Ne croyons pas que nous pouvons vivre en chrétien sans mener un combat spirituel. Si nous n'avons pas de combat spirituel, c'est que nous ne cherchons pas à vivre en chrétien. Il est normal qu'il y ait, ce soit compliqué parfois pour nous de choisir la vie, de choisir Jésus, de choisir la charité, de choisir de se renoncer, de choisir d'aimer. Voilà, il y a un véritable combat. Saint Paul le dit, hein, que la liberté que vous avez acquise par votre baptême, que par votre foi, ne soit pas pour vous un prétexte à être égoïste. Il nous faut mener le combat spirituel, le combat de la ferveur, le combat de l'amour de Dieu, de mettre Jésus en premier lieu. Si nous, chacun, personnellement, nous faisons cela, si nos communautés font cela, il est évident que des vocations particulières émergeront au sein de nos communautés et de façon toujours plus nombreuse. Voilà, demandons au Seigneur cette joie d'être fervent. Amen.